redonne forme aux choses qui ont perdu leur forme. Ça fait partie de la beauté. D'être symétrique, d'être équilibré, tout ça, ça fait partie. Maintenant, la beauté, par exemple, la beauté du visage, c'est quelque chose que moi, j'appréhende pas du tout, parce que je ne fais pas du tout de visage.
Mais là, vous ne parlez que comme un docteur avec une spécialité.
Oui.
Ça ne vous interdit pas d'avoir un regard sur le visage ?
Ça ne m'interdit pas de regarder sur le visage, mais vous n'aurez pas les propos du plus grand spécialiste mondial du visage. Il y en a qui sont comme ça. Hein. Il y en a qui appréhendent chaque proportion et chaque forme de visage pour avoir une sorte de perfection, puisque soi-disant, il existe une sorte de perfection du visage.
Vous évoquiez au début l'idée de rétablir une symétrie, puisque vous êtes spécialisé dans la chirurgie des seins. Est-ce que pour vous, la beauté est liée justement à une symétrie, à une perfection ?
La symétrie gêne beaucoup le regard, en fait, et gêne beaucoup le cerveau, parce que le cerveau est assez symétrique. Vous verrez, quand vous voyez de la déco, des paysages, des machins, il y a souvent une sorte d'équilibre qui fait que c'est bien. Vous voyez quelqu'un qui a une oreille décollée, une oreille pas décollée, c'est presque mieux d'avoir les deux décollées. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quelque part, il y a une sorte de logique de l'équilibre. Et par exemple, pour le sein, on a beaucoup, beaucoup de demandes de patientes qui sont déséquilibrées. Alors, ça peut être jusqu'au cancer du sein, où on a besoin de reconstruire parce qu'on a enlevé le sein. Mais néanmoins, les gens qui ont des malformations, des formes un peu particulières et des asymétries supportent très, très, très mal ces asymétries. Et pourtant, des fois modérées. Ça montre bien que dans le schéma corporel, il y a vraiment cette notion d'équilibre et de symétrie.
Pourtant, dans la nature, personne n'est symétrique.
Dans la nature animalière, tout est symétrique. Dans la nature végétale, il n'y a pas de symétrie. Et encore, il y a une symétrie particulière aux événements. Quand vous regardez des fleurs, les pétales, ils sont symétriques autour d'un rond. Le soleil, il est parfaitement rond. Vous ne voyez pas tout cet équilibre qui fait que c'est beau. Quand vous rentrez quelque part dans une pièce, et ce n'est pas symétrique, mais il y a une sorte d'équilibre des choses qui fait que c'est beau ou c'est pas beau. Équilibre des couleurs, équilibre des formes, équilibre des hauteurs. Vous mettez un truc très haut, un truc très bas à côté qui n'ont rien à voir, il y a une sorte de déséquilibre. Il faut qu'il y ait une sorte d'harmonie. Et l'harmonie, c'est un équilibre. Ce n'est pas une symétrie obligatoirement, mais c'est un équilibre qui est un petit peu symétrique par rapport à un autre point. Et c'est, l'harmonie, c'est un peu comme ça. C'est ce qui est décrit hein, par les philosophes. C'est pas moi.
Mais quand je disais que dans la nature, il n'y a pas de symétrie, c'est-à-dire qu'on n'est clairement pas parfait, parfaitement symétrique. L'être humain est fait de petites imperfections qui font que l'œil tombe un peu, qu'un sein est peut-être un peu plus petit. Est-ce que la beauté n'est justement pas dans l'imperfection ? Est-ce que cette recherche de la perfection ne nous éloigne pas d'un naturel, d'une authenticité ?
C'est deux choses différentes. On peut avoir les seins qui tombent un peu, et une très belle peau, qui soit très beau. C'est très beau et ça peut être comme ça, mais si vous mettez un déséquilibre complet, ça veut dire un tout petit mamelon, un gros mamelon, un truc très bas, un truc très haut, c'est pas beau ça. Ça peut pas être joli. On peut pas avoir un équilibre. C'est celui qui a encore une fois l'oreille décollée, une oreille décollée ou l'œil qui tombe et l'autre qui est relevé, c'est pas. Cet équilibre, il fait la beauté. La beauté, c'était quelque chose d'équilibré. Et c'est pas pour rien que des gens travaillent sur cet équilibre depuis 3000 ans et qu'on fait autant d'investissements et financiers, de temps pour retrouver cet équilibre qu'on a éventuellement perdu. Alors on peut être beau un peu déséquilibré, mais on n'est pas beau très déséquilibré. Et les gens, je connais personne qui aime un déséquilibre important et qui trouve ça très beau. c'est très difficile, rien qu'à accepter dans le cerveau pour ce qui est de l'être humain, hein, c'est très difficile à accepter. Même, vous savez, les trucs, les Amazones pour les cancers du sein, là, qui se battent pour qu'on accepte. Enfin, moi, j'en connais pas mal, hein, parce que je les ai vus en photo, en machin, tout ça. On voit bien que c'est un combat de tous les jours d'accepter cette différence. C'est un combat de tous les jours qui dure toute la vie. Mais si un jour, on vous dit à vous, il n'y a qu'à faire ça et l'équilibre revient, j'en connais pas beaucoup qui vont rester déséquilibrés. Hein. C'est assez rare. Même ceux qui luttent pour. Voilà. Et alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas des modes un peu trop envahissants de chirurgie pour se modifier. Mais si on vous propose un truc très naturel, très bien, qui marche très bien et qui vous redonne ce que vous avez perdu, tout le monde dit oui. Quoi. C'est pas...
Vous êtes consacré par votre carrière à rétablir un équilibre. C'était important pour vous de...
Non, non. C'était quoi ? Je me suis consacré à rétablir la perte de quelque chose. En général, que ce soit en chirurgie esthétique ou en chirurgie reconstructrice, les gens ont perdu quelque chose. Alors, ils ont perdu un équilibre, ils ont perdu une sensation, ils ont perdu un toucher, ils ont perdu un volume, ils ont perdu une forme qu'ils avaient. On est toujours à la recherche un peu de ce qu'on a été aussi. Hein. Alors, où on est mal formé depuis toujours, et ça c'est un autre problème encore, où on devient mal formé, où on vieillit, et on veut retrouver ce qu'on était. Ce qui pour nous était un critère de beauté avant. Donc voilà, c'est de rétablir ce que la personne veut, parce qu'il y a des gens qui ont les seins qui tombent un peu, et qui sont un peu asymétriques, et qui ne sont pas du tout gênés. Et puis il y en a qui ont la même chose, et qui sont très 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 gênés. C'est pas la déformation ou la malformation qui fait la gêne, c'est le cerveau qui va avec. Et c'est les antécédents, l'histoire, le vécu, le partenaire, voilà, toute l'histoire de chacun. Donc c'est pas du tout une généralité, donc il faut... Quand vous rencontrez quelqu'un pour quelque chose, il faut d'abord écouter ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qu'elle veut, ce qu'elle voit, ce qui la gêne, avant de dire voilà, je peux vous faire ça. Parce que si vous dites à tout le monde, tiens, rentrez, je vais vous dire ce qu'il vous faut, vous. C'est pas comme ça, Georges. Parce qu'il y a des gens qui ont le nez un tout petit peu de travers et qui trouvent ça très beau, et vous n'allez pas leur dire, votre nez, il est affreux, il faut le remettre droit. Alors, il y en a qui font ça, parce que c'est un chiffre d'affaires, la chirurgie esthétique, entre guillemets. Moins que la chirurgie reconstructrice, mais ça, c'est pas bien du tout, parce que c'est vraiment... parce qu'elle peut être encore plus mal, après que vous l'ayez remis droit, si elle était bien un peu de travers, quoi.
Vous êtes impliqué, vous avez été formé en chirurgie générale.
Oui.
Vous êtes spécialisé dans la chirurgie réparatrice et la chirurgie des seins.
Oui.
En développant des techniques toujours plus avancées pour arriver à un résultat le meilleur possible.
Exactement.
C'est pour atteindre le beau, le plus efficace. C'est quoi votre quête ?
C'est pour... Alors, les femmes qui ont des cancers du sein et auxquels on abîme le sein pour les traiter, elles vivent ça comme une sorte de mutilation quand même. Au même titre qu'on doit avoir quand on vous enlève les petites lèvres et qu'on vous ferme le vagin. Je ne connais pas cette chirurgie, mais c'est un truc où on vous castre quelque part. On coupe quelque chose à vous qui vous empêche d'être ce que vous étiez. Et en fait, je me suis spécialisé dans le sein parce que c'était une technique qui était à cheval entre la chirurgie générale, comme vous dites, pour traiter les cancers, la chirurgie esthétique, pour rendre beau. Et en fait, il fallait réussir... En fait, ce qui n'est pas très bien, ce qui se faisait avant, c'est qu'on massacrait tout, et après, on envoyait la dame voir un plasticien, on disait, essaye de faire quelque chose pour elle. Et en fait, le mieux, comme quand vous faites du sport pour rester en forme, vous mangez healthy pour rester belle, voilà, et il vaut mieux le prendre à la base, faire le traitement minimum qu'il faut pour les maximums d'efficacité et prévenir en même temps ce que vous pouvez éviter comme massacre entre guillemets. Et ça, c'est de réunir des spécialités qui sont pas unies en fait. Ils sont vraiment dans deux mondes différents. Le chirurgien plasticien, il trouve ça beau, il fait comme ça, c'est beau. Et le cancer, il sait pas ce que c'est. Le cancérologue, beau, il sait pas ce que c'est. Lui, si on peut enlever que sa peau, eh ben, il va en enlever comme ça parce que ça lui semble mieux, quoi, plus efficace. Et en fait, c'est pas plus efficace. C'est juste de montrer aux gens qu'on peut faire efficace et pas trop moche. Donc, c'était un beau challenge. Il n'y avait pas de spécialité comme ça à l'époque où j'ai commencé, moi, à faire de la chirurgie esthétique.
Vous diriez que vous faites un métier dur ou un beau métier ?
Un beau métier, magnifique. Je ne connais pas un métier plus beau que ça, quoi. Rien que... D'abord, c'est... Moi, je fais un métier qui est proche de la sculpture aujourd'hui. C'est, ça ressemble plus à de la sculpture sur vivant que de la chirurgie. Il n'y a plus rien à voir. La chirurgie, c'est une technicité. Vous faites un lambeau microchirurgical, vous coupez des vaisseaux, vous faites des points de suture avec un fil qui est invisible à l'œil nu. Il faut un microscope comme ça. Il faut une dextérité phénoménale, tout ça. Mais il n'y a rien de... Voilà. Un robot, il peut le faire mieux que vous, hein, s'il est bien équipé. Alors que reconstruire un sein en injectant de la graisse et en la façonnant, aucun robot peut faire ça aujourd'hui. Il comprend rien, le robot. C'est vraiment humain et c'est, je vous dis, la sculpture sur plâtre. Voilà.
Est-ce que vous pensez que quelque chose qui a été abîmé peut rester beau?
Oui. Oh ben oui, il y a plein de choses qui sont abîmées qui restent belles.
Et quelque chose de réparé?
Oui, ça peut rester beau. Ça peut redevenir beau, même si c'était pas très beau. Oui. J'ai même des patientes, moi, qui me disent qui préfèrent leur sein après la reconstruction qu'avant. Parce qu'il était petit, qu'il tombait, qu'il était un petit peu asymétrique, ou qu'il était énorme et que ça les gênait. Voilà. Et après la reconstruction, elles ont une forme et un volume normal. Et ça leur permet d'avoir une tenue qu'elles n'avaient pas avant. Il y a plein de cas où ça peut même être mieux, hein.
Quand vous parlez...
Alors, ceux qui souffrent le plus, en fait, c'est ceux qui étaient très beaux. Les très beaux souffrent beaucoup de n'importe quelle mutilation et du vieillissement. Vous voyez les actrices de cinéma, les trucs, que le vieillissement, c'est terrible pour elles. Terrible. Elles sont prêtes à se faire injecter n'importe quoi dans n'importe truc pour rester ce qu'elles étaient et ce qui leur apportait ces bénéfices secondaires. C'est que les gens se retournent sur votre passage, que... vous avez une sorte d'émanation que vous perdez au fur et à mesure. Alors, si vous basez tout sur ça, ça fait une perte.
C'est plus lié à la séduction qu'à un état d'être.
Non, c'est pas que de la séduction. C'est de la beauté, de la perfection, de la... Il y a des gens... Enfin, moi, je vois parmi mes patientes en chirurgie esthétique, par exemple, des mannequins qui ont mis des prothèses, on voit qu'elles ont une image d'elles qui est hypertrophiée, quoi. Elles savent qu'elles sont belles et donc elles savent que leur arrivée quelque part, leur mouvement quelque part va créer quelque chose, alors que le tout venant il dit pas ça, vous rentrez, vous dites bonjour, elles disent pas bonjour, elles rentrent simplement.
Donc en fait la beauté ce serait un message que l'on envoie.
Ah oui, c'est une sorte d'émanation des gens. D'ailleurs, quand vous voyez des gens qui ont des yeux avec des couleurs magnifiques, vous êtes pétrifié quasiment devant tellement c'est beau, comme dans un paysage ou dans un machin. Mais voilà. Les mannequins, ceux qui mettent leur regard dans des publicités, des machins, elles ont un regard en général qui est très 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 prenant, qui délivre un message, quoi, quelque part.
Est-ce que pour vous, la beauté, c'est lié à quelque chose d'éphémère ?
Non. Non, c'est pas éphémère. Il y a une sorte de variation dans le temps, mais c'est pas éphémère. On n'est pas beau un jour et pas beau le lendemain. On est beau. Les beaux sont quasiment beaux toute leur vie. S'ils restent stables, c'est des beaux enfants, c'est des beaux adultes, c'est des belles jeunes femmes, c'est des belles femmes âgées, c'est des belles grand-mères, souvent. On reste comme ça, mais dans un rôle différent, si vous voulez.
Alors, peut-être que je me suis mal exprimée sur l'éphémère. Est-ce que c'est plutôt quelque chose donc, qui est rare, qui doit sortir du lot? Est-ce que si tout le monde était beau, on le remarquerait autant? Est-ce qu'il faut non. Vraiment que ce soit rare pour être apprécié?
Oui, il faut que ce soit un peu rare quand même. Si tout le monde était beau, personne ne serait beau. On serait tous pareils. On serait tous pareils. Ah oui, c'est triste d'être tous pareils. C'est triste. Et même quand vous parlez de beauté, entre une beauté d'une grande brune aux yeux noirs et une petite blonde aux yeux bleus, c'est pas la même beauté, mais c'est des beautés quand même. Voilà, il n'y a pas une beauté normalisée, quoi.
Quelle beauté vous émeut, vous ?
Ah, je n'ai pas de beauté qui m'émeut. Il y a des gens qui, je trouve, que je trouve comme ça, qui émanent un petit peu de... quand ils arrivent. Et ce n'est pas spécialement les plus beaux, parce qu'il y a des très beaux qui sont un peu fadasses sur les bords. Et il y a des moins beaux qui ont une sorte d'équilibre, d'harmonie, de positionnement, de, voilà, de sourire, de rictus, de rides, tout ça, qui font que l'équilibre est parfait. Mais c'est pas le plus beau qui émane le plus.
On dit que souvent est beau ce qui plaît, mais ce qui plaît à celui qui regarde ou à celui qui envoie le message?
Alors aux deux, parce que celui qui envoie le message, quand il est très sûr d'être beau, il envoie un message beaucoup plus fort. Parce qu'il y a des beaux qui ne savent pas qu'ils sont beaux. Et en fait, ils sont beaucoup moins beaux que les autres. Parce qu'ils arrivent, ils communiquent pas cette force que les autres ont. Et puis celui qui reçoit, il reçoit selon sa perception. Alors, c'est pas tout le monde n'aimera pas le même stéréotype. Heureusement que sinon, on épouserait tous la même femme. Mais voilà. Après, il y en a qui font quand même l'unanimité par rapport à d'autres qui la font moins. Sûrement.
Mais je suis pas d'accord sur le fait que les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur beauté, sont moins beaux que les autres. Je suis beaucoup plus séduite par une personne qui ne joue pas de sa beauté, que je trouve limite gênante parce qu'elle m'est imposée. Quand je vois une très belle femme qui sait qu'elle est belle et qu'elle en joue, ça commence à m'irriter.
Oui, moi aussi.
Alors qu'une femme qui va avoir une grâce un peu innocente, pas arrogante, va peut-être plus m'émouvoir et je vais avoir peut-être envie de lui dire qu'elle est belle, je vais avoir envie de lui donner quelque chose. En revanche, quelqu'un qui m'impose le propre regard qu'elle a sur elle, ça va avoir tendance à m'irriter.
Alors, je vous comprends, c'est tout à fait normal et on pense tous probablement la même chose, mais celui qui va se faire le plus remarquer, le plus qui va émaner le plus, c'est celui qui délivre un message en arrivant, quoi. Et souvent, celui qui ne sait pas ou qui ne veut pas, il est un petit peu plus dans son coin. Il faut vraiment bien regarder, pour le découvrir. Pour moi, par exemple, j'ai des gens autour de moi que je trouve très beaux et qui sont mal coiffés, mal habillés, en jogging, qui mettent des trucs de sport. Vous savez, comme si on veut se cacher un peu. Ces gens-là, vous les voyez dans le métro, vous ne voyez pas qu'ils sont beaux. Vous la sortez de là, vous lui mettez une robe blanche et vous la coiffez, c'est une bombe. Et encore, moi, j'ai un œil professionnel. C'est-à-dire que je regarde les traits, les sourcils, les gens, les yeux, les cheveux, l'implantation, elle est basse, elle est haute, les épaules, elles se tiennent. Mais la plupart des gens, ils ne font pas ça. Ils scannent un truc, c'est beau ou c'est pas beau. Ils n'ont pas un scanner suffisamment développé pour découvrir. Donc ces gens-là ne se font pas remarquer, en fait. Alors vous qui êtes sensible, vous allez le voir. Mais 9 personnes sur 10 ne vont pas le voir. Elles vont passer inaperçues.
C'est marrant qu'un chirurgien plasticien dise que la beauté, c'est dans l'attitude.
Non, c'est pas dans l'attitude. Ce que je vous dis, c'est que les gens très beaux, ils profitent de ça dans leur attitude pour se faire remarquer. Mais c'est pas l'attitude. Après, dans l'attitude, il y a quand même des beautés. La démarche, la façon de s'asseoir, la façon de croiser les jambes, la façon de vous sourire, la façon du port de tête, tout ça, c'est de la beauté. Et ça s'enseigne, déjà. Il y a des gens qui savent mieux le faire que d'autres, et ça fait partie de cette beauté. Il y a des gens qui sont... Les actrices des années 50, elles avaient ça, un peu. Elles étaient moins belles, mais avec beaucoup de...
De glamour.
Voilà, d'apprentissage, machin, et trucs, voilà, qui en font moins à la mode aujourd'hui, quoi. Il y a une question de mode aussi dans la beauté. Aujourd'hui, on a des beautés froides, un peu avec des critères qui sont en train de changer, c'est-à-dire des gros culs, des gros seins, des gros machins, des trucs astronomiques, quoi. C'est... Voilà, donc à chaque époque, mais c'est vrai qu'on est en train de perdre un peu cette beauté d'attitude, parce que celles que vous voyez, elles sont vraiment moches, là, aujourd'hui. Celles qui font les télé-réalités ou les machins ou les trucs. Et pourtant, moi, je vois mes enfants, ils me disent, elle est très très belle. Dans quel monde on vit, quoi. Donc, je pense qu'on est un peu obsolète après.
Si les codes d'une société évoluent, est-ce que les vôtres évoluent aussi? Ou est-ce qu'on est avec une appréciation de la beauté propre et,
Alors moi, j'ai mes appréciations de la beauté, mais j'essaye de ne pas les imposer aux patientes. Parce qu'une patiente qui veut avoir des seins un peu volumineux, elle veut avoir des seins un peu volumineux, parce que dans son schéma corporel, c'est comme ça. Une qui veut avoir des petites fesses ou des grosses fesses, c'est aussi dans son schéma. Je ne ferai pas d'hypertrophie, parce que ça m'embête de faire des choses hypertrophiques, mais je comprends que le schéma corporel n'est pas le même pour tout le monde. Il y a des gens qui naissent avec des gros seins et qui ne les supportent pas, il y a des gens qui naissent avec des gros seins et qui les adorent. Donc vous n'allez pas dire à quelqu'un, c'est les gros seins, c'est pas bien. c'est fonction de votre schéma corporel. Donc c'est pas moi qui dis ce qui est beau ou normal. C'est pour ça qu'il faut entendre ce que la patiente, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle souhaite, comment elle est, comment dans sa tête elle est, quels sont à elle ses critères de beauté. Parce que si elle se sent bien dans sa peau, elle va émaner mieux. Voilà. Et le but, c'est que ce soit bien dans sa peau. Si vous mettez des gros seins et qu'elle déteste les gros seins, alors vous allez trouver ça bien parce que les critères de mode aujourd'hui, c'est des gros seins, mais elle va être très mal dans sa peau.
Vous n'êtes pas un créateur de beauté, mais un créateur de bien-être.
Alors moi, je vois plutôt la chirurgie plastique comme ça. Je suis plus dans le rétablir un équilibre physique et mental plutôt que juste un équilibre, un déséquilibre physique. Parce que pour moi, c'est un déséquilibre.
Mais même si on n'est pas touché par la maladie, la gravité d'un cancer, il y a une légitimité à solliciter la chirurgie plastique quand on est juste malheureuse ou mal dans sa peau?
Ah oui, moi je pense, oui. Oui, je pense. Parce que plein de gens vont vous dire que non, mais parce qu'ils ont, c'est ceux qui ne vivent pas ça. Ceux qui vivent ça, ils souffrent vraiment. On peut souffrir de choses qui sont vraiment anodines pour d'autres. Par exemple... quand vous avez les oreilles un peu décollées, il y a plein de gens qui vont vous dire « mais ça te va bien, ça te fait un charme et tout ». Et la personne, elle y pense tous les jours, toute sa vie, elle est malheureuse, elle se cache, elle s'écrase les oreilles comme ça.
Quel regard vous portez sur cette tendance sociétale de plus en plus marquée du body positivisme, où on encourage les gens à s'accepter tels qu'ils sont, avec une propension quand même à capitaliser sur les rondeurs affirmées, parfois même de fortes rondeurs. Est-ce que ce mouvement, pour vous, est cohérent? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est...
Bah déjà, il peut être que positif, parce que le plus dur de la vie, c'est de s'accepter. Alors, encore une fois, quand on est très beau, très intelligent, très truc... Et encore, même ceux-là, ils ont chacun des psychoses un peu différentes. Parce que la douleur de quelque chose, ce n'est pas proportion de la déformation qu'on a. C'est proportion de l'image qu'on a de soi et qu'on veut corriger. Mais c'est vrai que si on s'accepte plus, qu'on soit petit, grand, rond, trop maigre ou trop machin, ça règle quand même beaucoup de problèmes. Parce que c'est ça qui crée les problèmes mentaux. C'est le regard des autres et le regard qu'on a soi, sur soi... Mais c'est pas que le regard des autres. Hein. Le regard de soi sur soi, c'est très très important. Et en fait, ce regard de soi sur soi, il dépend beaucoup de votre enfance et de ce qu'on vous a fait vivre petit, quoi. Les mères juives, elles arrivent à dire aux filles, même moches, t'es très belle, t'es la plus belle, t'es une princesse. Et bien, quand elles sont grandes, elles ont l'impression d'être une princesse, presque. Alors si vous dites à quelqu'un, t'es con, t'es moche, t'es con, t'es moche, t'es con, t'es moche, et bien à 30 ans, elle est con, elle est moche. Et même si elle est belle, elle est con et moche. Dans sa tête, elle est con et moche. Donc, il y a beaucoup de la bienveillance de l'entourage et du reste du monde qui fait que vous êtes bien ou pas. Et quand on est bien, ben on s'accepte. Et quand on est bien, on peut être un peu rond. Et quand on est bien, ça ne va pas refaire le monde. On aura un sacré taf, là.
Mais c'est ça, c'est la bienveillance nouvelle de la société aujourd'hui
qui change un peu, oui.
Qui a cassé les dictats de la méthode.
Parce qu'il y a eu des critères de beauté terribles pendant 20-30 ans, là. Où il n'y avait plus rien, c'est un objet presque.
Voilà. Là, on voit des filles qui font 42, 44,
des
campagnes de lingerie.
Oui, c'est, non, c'est, 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 un, c'est un bon message à envoyer, mais il y a encore beaucoup de chemin, quoi. Parce que c'est pas que ça, c'est beaucoup, c'est tout votre entourage, et c'est beaucoup l'enfance, quoi, parce que les enfants souffrent beaucoup. Oui, un enfant en salle de récréation, s'il n'est pas aux normes, s'il n'est pas s'il est gros, c'est un calvaire. S'il est trop grand ou trop petit, c'est un calvaire. S'il est mal habillé, c'est un calvaire. C'est voilà, et c'est la tête de tueur de tout le monde, et c'est une souffrance qui va rester à vie.
Donc, en fait, c'est plus facile de réparer le plastique que les mentalités.
Ah ouais. C'est une aide. C'est une aide, une petite aide, hein, parce que il y a beaucoup de travail.
Quelle est la plus belle chose qu'on vous ait dite suite à votre intervention ?
Ah, c'est même pas des choses. J'ai la chance de faire une chirurgie. C'est pour ça que je me suis allié là-dedans, parce que j'ai la chance de faire une chirurgie où il y a vraiment une reconnaissance du patient. Ça veut dire que il y a des gens qui ont été déconstruits pendant des années et qu'on reconstruit, ou qui ont été mal reconstruits et qu'on reconstruit bien. Et on sent bien que le jour où c'est fini, où on l'a fait, alors il y a des remerciements verbaux, mais il y a surtout un regard, un sourire, une sorte d'énorme merci, un hug si vous voulez, quelque chose qui fait que ça vous remplit quand même. Alors quand vous avez la chance de faire ça, moi j'opère beaucoup, j'ai une grosse activité, je suis très très spécialisé, donc ça veut dire que je reprends beaucoup de ratés de toute la France ou même de l'Europe. Donc les ratés, si vous voulez, c'est des gens qui ont souffert pendant des années parce que c'est pas ce qu'on leur a fait n'est pas bien, et qu'on corrige et qui retrouvent quelque chose. Ben, quand vous avez la chance dans une consultation d'en avoir 4 ou 5 ou 6 qui vous disent « vous m'avez sauvé la vie, vous m'avez remis sur mes rails, j'étais plus rien, j'y arrivais plus, j'avais plus confiance en moi », tout ça, ben, je veux dire, vous rentrez chez vous, vous êtes rebondi. Vous vous sentez fort.
Et dans ces moments-là, ces personnes sont belles.
Ah ouais. Ouais. Elles sont belles, ouais. Parce qu'elles ont, enfin une belle image d'elles-mêmes. C'est ça qui pêche. Tant qu'elle souffre de cette image, c'est dur, quoi.